Chapitre 33. C'était le milieu de l'après-midi, et le soleil trentorien se reflétait sur la peau de métal recouvrant la vaste planète. Debout, au bord de la passerelle d'observation de l'université de Stirling, Harry Seldon protégeait de la main ses yeux de cet éclat aveuglant. Cela faisait des années qu'il n'avait plus quitté l'abri du dôme, hormis pour ses rares visites au palais. Et d'ailleurs, celle-ci ne comptait guère. On se sentait toujours extrêmement confiné dans l'enclave impériale. Seldon voyageait à nouveau seul. D'abord parce que Palvert passait le plus clair de son temps avec Vanda, soit à travailler sur le premier radiant, soit absorbé dans ses recherches mentalistes, soit en quête d'éventuels semblables. S'il l'avait voulu, Seldon aurait pu trouver un autre jeune homme étudiant à l'université ou membre du projet pour lui servir de garde du corps. Toutefois, il n'avait plus besoin de garde du corps. Suite à l'extrême médiatisation de l'audience du tribunal, puis au rétablissement de ses liens avec la Bibliothèque Galactique, la commission de sécurité publique gardait en permanence un œil sur lui. Il se savait suivi. Il avait surpris son ombre un certain nombre de fois ces derniers mois. Il savait aussi que son domicile et son bureau avaient été truffés de dispositifs d'écoute, mais peu lui importait. Quand il avait une communication confidentielle à passer, il lui suffisait d'activer un champ électrostatique. Seldon ne connaissait pas l'opinion précise de la commission à son égard. Peut-être ne la connaissaient-ils pas eux-mêmes. Mais qu'ils le prennent pour un prophète ou pour un cinglé, il mettait un point d'honneur à savoir à tout moment où il se trouvait, ce qui voulait dire que, jusqu'à ce qu'il change d'avis, Seldon était protégé. Une brise légère fit gonfler la cape bleu foncé que Seldon avait passée sur son unique combi, ébouriffant les rares cheveux blancs et fins restant sur son crâne. Il se pencha au-dessus de la balustrade, embrassant du regard la couverture d'acier tendue sans la moindre couture. Sous cette couverture vrombissait la machinerie d'un monde immensément complexe. Si les dômes avaient été transparents, on aurait pu voir foncer les véhicules terrestres, les gravitaxis se faufilaient dans le dédale des tunnels interconnectés, se dressaient les hypernefs spatiales qu'on chargeait et déchargeait de céréales, de produits chimiques, de joyaux, en partance pour tous les mondes de l'Empire ou revenant de ceux-ci. Sous cette peau de métal étincelante, 40 milliards d'individus menaient une existence faite de joie, de peine et de drame. Ils chérissaient tendrement cette image de la réussite de l'homme, et cela lui fendait le cœur de savoir que, dans quelques siècles seulement, tout ce qui s'étendait devant lui ne serait plus qu'un champ de ruines. Le grand dôme fendu, défoncé, révélerait un immense terrain vague désolé, là où jadis s'épanouissait le cœur d'une civilisation florissante. Il hocha la tête avec tristesse, car il se savait impuissant à empêcher cette tragédie. Mais Seldon savait également que de ce sol ravagé par les dernières batailles de l'Empire naîtraient de nouvelles pousses, et que, d'une manière ou d'une autre, Trentor redeviendrait un élément vital du nouvel Empire. Le plan y veillerait. Seldon se laissa tomber sur l'un des bancs installés tout autour de la passerelle. Sa jambe l'élançait douloureusement. Le trajet avait été un peu trop long. Mais il était heureux de contempler une fois encore Trentor, de sentir l'air pur autour de lui, de voir le vaste ciel au-dessus de lui. Mélancolique, Seldon songea à Vanda. Il ne voyait plus que rarement sa petite fille, et Stettin l'accompagnait invariablement. Depuis leur rencontre 3 mois plus tôt, ils étaient devenus inséparables. Vanda affirmait que ce contact permanent était indispensable au projet, mais Seldon soupçonnait que cette assiduité dépassait la simple ardeur au travail. Certains indices révélateurs lui rappelaient ses premiers jours avec Dors. Les regards échangés par les deux jeunes gens avaient cette intensité née de la stimulation intellectuelle, mais aussi d'une implication émotionnelle. En outre, Vanda et Palvert semblaient plus à l'aise ensemble qu'avec les autres. Seldon avait découvert que lorsqu'ils étaient seuls, Vanda et Palvert ne se parlaient même pas. Leur don mentaliste était suffisamment développé pour leur permettre de se passer de mots pour communiquer. Les autres membres du projet n'étaient pas conscients des talents de Vanda et de Palvert. Seldon avait jugé préférable de taire leur activité, du moins tant que leur rôle dans le plan n'était pas strictement défini. En fait, le plan, proprement dit, était nettement délimité, mais uniquement dans l'esprit de Seldon. Lorsque les derniers éléments auraient trouvé leur place, il révélerait son plan à Vanda et à Palvert, et plus tard, à un ou deux autres fidèles. Seldon se releva lentement, avec raideur. Il devait être de retour à Strilling dans une heure pour retrouver Vanda et Palvert. Il lui avait laissé un mot pour le prévenir qu'il lui réservait une grande surprise. Une nouvelle pièce du puzzle, espérait Seldon. Une dernière fois, il embrassa Trantor du regard, et avant de réintégrer l'ascenseur à répulsion gravifique, il sourit et murmura « Fondation ».